Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, M. Tiffaine de Recuny, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Luc-Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Cette semaine, dans Culture Monde, nous allons nous intéresser donc aux questions migratoires, les démocraties à l'épreuve des migrations. Mardi, nous partirons pour le Niger, la Libye, la Turquie ou encore le Maroc, où nous nous intéresserons à ces pays devenus les nouveaux gardes-frontières de l'Europe. Mercredi, on s'intéressera à la Suède, mais également à l'Allemagne, pour s'interroger sur les différents modèles d'intégration et sur les résultats qu'ils ont donnés. Jeudi, nous interrogerons sur la question du retour, mais aujourd'hui, place à la crise politique face à la crise migratoire. L'Union européenne en sursis, c'est la question qu'on se pose ce matin.
Feu vert pour le Zodiac 1.
Ready. Got it.
Ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est de ne pas bouger. Ça va prendre beaucoup de temps, mais n'ayez pas peur, vous allez tous venir sur notre bateau.
Aujourd'hui, vous avez des femmes et des hommes qui n'ont aucune chance d'obtenir l'asile en Europe, qui prennent tous les risques, qui meurent dans la Méditerranée. Est-ce que cette situation est humaine? À tous égards, non.
Le problème est que notre histoire de solidarité, de générosité et du volontariat ne mérite pas d'être piétinée par l'utilisation de termes exprimés par certaines personnes dans le gouvernement français.
Nous souhaitons œuvrer de façon coordonnée, de préférence au niveau européen, ce qui n'est pas facile. Voilà pourquoi on peut également envisager la coopération de certains pays. Et ce que nous voulons éviter, c'est que l'Europe se divise, mais au contraire, nous voulons agir pour que l'on trouve des réponses communes.
Angela Merkel, Emmanuel Macron ou encore Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur. Alors que les dirigeants de l'Union européenne se retrouveront en fin de semaine à l'occasion d'un sommet, les pays membres sont plus divisés que jamais sur la question migratoire et sur la manière dont il convient d'y répondre. On en a vu un nouvel exemple il y a deux semaines avec l'affaire dite de l'Aquarius, ce bateau humanitaire qui a eu tant de mal à trouver un port d'accueil. Le gouvernement italien s'y refusant, c'est finalement le nouveau gouvernement espagnol de Pedro Sanchez qui a décidé de recueillir les naufragés. Quelques jours plus tard, la discorde éclatait au sein même du gouvernement allemand. En effet, le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, menaçait de quitter son allié historique, la CDU d'Angela Merkel, si cette dernière ne donnait pas des gages sur la question migratoire. Un ultimatum a même été lancé, laissant planer le spectre de la crise politique dans un pays pourtant réputé pour sa stabilité. Jeudi dernier, enfin, les pays du groupe dit de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, ajoutaient encore un peu d'agitation, annonçant refuser de participer aux réunions préparatoires du sommet européen qui se sont déroulées ce week-end. Alors jusqu'où l'Union européenne se divisera-t-elle sur la question migratoire? Ces pays membres vont-ils devoir abandonner les principes, les valeurs universelles, pourtant au cœur du projet européen pour sauvegarder l'Union? Peut-on se mettre d'accord sur une politique commune, sur l'accueil, l'intégration des migrants? Peut-on réformer le droit d'asile européen? Autant de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord, Nele Wiessmann. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse associée à l'IFRI et spécialiste des questions migratoires et en particulier de l'intégration. Et en Allemagne, on l'a entendu. Merci également à Yves Pascoe d'être avec nous depuis Nantes. Bonjour Yves Pascoe.
Bonjour.
Vous êtes vous chercheur à l'Université de Nantes et puis président de l'association European Migration Law, qui est aussi un site internet. Nele Wiessmann, Yves Pascoe, 16 chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés en mini-sommet à Bruxelles à l'invitation de la Commission pour préparer le prochain sommet de la fin de semaine. On va voir ce qu'on peut en attendre dans quelques instants, mais d'abord, un point de vue un peu général, parce qu'on voit en Europe, ça fait maintenant 3 ans qu'on parle de crise migratoire depuis cette année 2015. Depuis lors, les États membres se sont montrés absolument incapables de gérer ensemble cette question-là. Il y a eu le mécanisme de relocalisation qui a été un échec, on y reviendra. Les principaux pays concernés par les arrivées, l'Italie, la Grèce, ont été assez largement en réalité abandonnés par leurs partenaires. Alors c'est vrai que pendant longtemps, ce rejet de la solidarité, il avait trouvé une traduction politique essentiellement dans les pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Pologne. Mais désormais, on sent qu'au fond, tous les pays sont exposés à une forme d'instabilité politique provoquée par cette crise migratoire. On le voit là avec le gouvernement italien, on le voit aussi avec l'Allemagne, on a quand même le sentiment, en tout cas moi je l'ai, je voudrais avoir votre avis là-dessus, qu'on a franchi une nouvelle étape dans cette crise politique consécutive justement, et cet afflux de migrants, même si en réalité on n'a pas aujourd'hui la déferlante que d'aucuns décrivent. Mais est-ce que vous avez le sentiment, on va commencer avec vous Nelly Wiesmann, que plus que jamais, l'avenir de l'Europe est en jeu?
Absolument. C'est un peu, je dirais, cette semaine, un peu le final countdown de la crise migratoire. Hein. Toute la discussion qu'on a eue dans l'Union européenne. En Allemagne, justement, c'était jamais vu. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, l'ultimatum que le ministre de l'Intérieur, Seehofer, a posé à Angela Merkel, c'est quelque chose qui était très étonnant. Parce qu'il met vraiment en danger à la fois l'union avec la CDU, donc l'union entre la CSU et la CDU, les deux parties sœurs, les gouvernements tout simplement, et aussi d'une certaine manière l'Union européenne. Parce que imaginez-vous qu'au moment où Angela Merkel n'arrive pas à avoir cet accord, elle est assez sûre qu'il n'y aura rien cette semaine, à ce moment-là, Seehofer, il a déjà dit, lui, il va fermer les frontières. Donc il va justement interdire aux personnes qui se présentent à la frontière, Autriche, Allemagne, Bavière, d'entrer. Qu'est-ce qui va se passer? Les personnes, ils vont revenir en Autriche. L'Autriche va pas les accepter. L'Autriche va les renvoyer en Italie. Et à ce moment-là, sera le chaos total. Donc, je dirais vraiment qu'actuellement, la situation cette semaine sera vraiment très décisive pour l'avenir de l'Union européenne.
On reviendra évidemment sur le cas allemand. Il va falloir se pencher précisément sur l'Allemagne. Yves Pascaud. Il faut impérativement trouver une solution commune, sans quoi on risque l'effondrement de l'Union.
Ah oui, ça c'est... Alors, l'effondrement de l'Union, je pensais en arrivant ce matin, j'ai eu exactement la même émission de radio il y a 2 ans avec vos confrères de France Inter et Stéphane Paoli, avec à peu près le même titre, donc tout, l'Union européenne est toujours en crise. Il y a 2 éléments sur lesquels je voudrais revenir par rapport à votre introduction. Vous dites que les États ont été incapables de gérer la crise migratoire. Je pense qu'il faut reconsidérer cette question, parce que si on regarde bien... En réalité, la volonté de rétablir l'ordre telle qu'elle avait été notamment manifestée par le gouvernement allemand suite aux événements de août, septembre, octobre 2015, eh bien cette volonté-là s'est réalisée. Si on voit les chiffres des arrivées sur le territoire de l'Union européenne, ils ont considérablement baissé. 1 million en 2015, 500 000 en 2016, 200 000 en 2017. Ce qui veut dire qu'en réalité...
Et on sera probablement sous la barre des 100 000 pour 2018.
Alors ça, il faudra voir, parce qu'on arrive à la période estivale, donc on arrive sur une période au cours de laquelle les traversées sont beaucoup plus importantes et les entrées dites irrégulières sont plus importantes. Donc là, on a un élément objectif qui démontre que on a réussi à gérer cet aspect-là. Deuxième élément qu'on a particulièrement bien géré et qui est relativement peu mis en avant, c'est que au cours des 2 dernières années, un ensemble de règles ont été adoptées afin de renforcer l'espace Schengen, et notamment afin de renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen. La création d'un corps européen de garde-frontières en est la manifestation la plus importante, ce qui veut dire en réalité que non seulement les arrivées ont sérieusement diminué, à la faveur notamment d'accords passés avec les pays tiers sur lesquels on peut juridiquement avoir des discussions, mais l'accord avec la Turquie et la fermeture de la route des Balkans sont aussi des éléments qui ont permis de limiter les arrivées, et on a rendu le système, comme on aime à le dire à Bruxelles, plus résilient. Ce qui veut dire qu'en réalité, la gestion, on a été capable de maîtriser les flux.
On va y revenir. Yves Pascaud, je veux bien vous concéder à la limite ces succès. Du point de vue numérique, ils sont indiscutables, sauf que du point de vue politique, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on disait il n'y a que l'Europe centrale, au fond, qui constitue un pôle refusant la solidarité à l'égard des migrants et des réfugiés. On voit que ce pôle, il est en train de considérablement s'étendre. Vous voyez ce nouvel axe, Munich, Vienne, Rome, anti-migrants. Là, on a quelque chose qui bouleverse totalement la donne politique. Les anti-migrants sont désormais majoritaires au sein de l'Union européenne, Yves Pascaud.
Ce qui veut dire dès lors qu'on n'est pas dans une crise migratoire, on est dans une crise politique. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron en arrivant au ministère hier. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'on assiste à une transformation excessivement rapide du paysage politique européen. Il y avait effectivement le groupe de Visegrad qui n'avait jamais caché son opposition au dispositif obligatoire et sa réticence à accueillir sur son territoire des ressortissants de pays tiers ou des réfugiés. Et effectivement, ce groupe-là est en train de s'étendre avec l'Autriche, l'Italie, qui sont deux gouvernements à l'intérieur duquel des représentants de l'extrême droite siègent et siègent dans les, au portefeuille qui concerne les questions migratoires. Mais on peut aussi étendre ce groupe à l'Allemagne et à la position de Horst Seehofer qui est très radical. Mais aussi, rappelez-vous, il y a quelques jours de cela, le secrétaire d'État à l'immigration belge, Theo Franken, a aussi tenu des propos excessivement durs. Et on peut aussi ajouter à ce groupe le Danemark. Donc en réalité, ce que vous démontrez, c'est effectivement que cette position dure qui était défendue par le groupe de Visegrad reçoit aujourd'hui un soutien beaucoup plus important. Ce qui fait que la position notamment d'Emmanuel Macron est aussi une position dure contre ce qu'on appelle la montée des démocraties illibérales. Et il faut à ce titre se rappeler de son intervention au Parlement européen. Tout le début de son intervention est consacré à ce phénomène-là.
Nele Wiesmann, sur ce rapport de force qui au sein de l'Union européenne est en train de basculer avec l'émergence de ce nouvel axe Vienne, Rome, Berlin. Alors Berlin ou Munich, ça dépend où est-ce qu'on se place, mais en tout cas, on voit que ces pays-là sont désormais contre l'idée de l'accueil de migrants ou même de réfugiés.
Je pense,
le rapport politique est en train de changer.
Tout à fait, tout à fait. Ce sera plus d'ailleurs un axe Rome-Vienne-Munich, hein, beaucoup plus que Berlin, qui est absolument pas d'accord avec ce qu'il dit actuellement en Autriche, en Italie. Même si, on le sait, Angela Merkel aujourd'hui, elle a absolument besoin de l'Italie pour trouver un accord. Si c'est un accord bilatéral, justement, pour pouvoir négocier cette semaine. Je pense, Monsieur Pascaud, il a dit un élément qui est extrêmement important, que c'est absolument plus une crise de migrants. Il a donné des chiffres, c'est d'ailleurs pareil pour l'Allemagne qui accueille toujours le plus de migrants, enfin des réfugiés, mais qui ont fortement baissé. Rien qu'au début de cette année, on a encore un baisse de 17%. Donc on n'est plus aux 1 800 000 personnes qui arrivent en Allemagne, c'est absolument pas ça. Je pense, ce qui se passait, c'est vraiment qu'on n'a pas assez bien communiqué autour. C'est-à-dire qu'au moment où Angela Merkel, en 2015, décide d'ouvrir les frontières, et d'ailleurs, elle n'a pas décidé d'ouvrir, c'est juste qu'elle a décidé de ne pas fermer les frontières au moment où il y a la crise humanitaire en Hongrie, elle n'arrive pas à expliquer aux Allemands que c'est plus une dérogation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on fait pour les Syriens, pour les faire venir en Allemagne, parce que c'est une vraie crise humanitaire. Elle n'arrive pas à expliquer que vraiment l'Allemagne durcit plus sa politique d'asile que d'ouvrir vraiment les frontières pour tout le monde. On a plusieurs paquets d'asile qui sont votés en 2015-2016 en Allemagne, mais tout cela, les Allemands y voient pas. Ce qu'ils voient par contre, c'est justement les attentats. Ils voient, il y avait récemment ce cas d'une fille allemande qui a été violée, assassinée par un Irakien qui a ensuite réussi à s'enfuir. Et il y a en Allemagne actuellement le scandale de la BAMF, la BAMF, qui est l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés, où on a vu que au moment 2015-2016, où beaucoup de personnes arrivent, il y a beaucoup de demandes d'asile, on n'arrive pas à gérer. Et il y a des décisions qui ont été prises qui doivent être corrigées aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens, ils ont reçu le droit de rester en Allemagne, or qu'ils auraient dû être expulsés. Et tout cela fait qu'on n'arrive pas à communiquer autour, qu'aujourd'hui, une partie des Allemands, ils ne comprennent plus pourquoi quelqu'un qui a fait une demande ou qui a été enregistré en Italie, pourquoi il a le droit de se présenter à la frontière allemande.
On n'arrive plus à communiquer parce qu'on a une hystérisation du débat partout. Comment sortir, Yves Pascaud, précisément de ce piège, de cette hystérisation du débat autour de la question migratoire ?
Je pense qu'il faudrait que nos dirigeants européens aient la capacité d'envoyer un message inverse, et qui est un message de force et de stabilité, de dire mais pourquoi est-ce que ce débat-là éclate alors que nous avons rétabli l'ordre.
C'est
alors
ce que disent Angela Merkel et Emmanuel Macron en sans
effet.
Oui,
mais ils ne le disent que tardivement, c'est-à-dire que il faut quand même se rendre compte, et vous parlez d'hystérisation, je pense que c'est tout à fait le cas. Cette histoire-là, en fait, tout s'est enflammé à partir du moment où l'Italie a refusé d'ouvrir son port à l'Aquarius. Mais si on regarde bien, c'était une aubaine pour Matteo Salvini. L'Aquarius arrive, il a dans son programme l'idée qu'il allait interdire l'accès à ses ports en particulier aux navires des ONG. Il a la possibilité de dire, bah, écoutez, non, je refuse. Ça commence à créer une situation de tension, ce qui arrange en réalité aussi beaucoup le gouvernement italien. Et en plus, dans ce cadre-là, on a la perspective d'un Conseil européen. Donc en réalité, tous les ingrédients sont là pour que le dispositif s'enflamme, et il s'est enflammé alors que il eût été peut-être beaucoup plus, politiquement plus pertinent de considérer que oui, effectivement, nous avons un nouveau ministre de l'Intérieur ici de l'extrême droite en Italie qui saisit cette occasion-là pour créer une sorte de choc interne. Ben, je pense que plutôt que de suivre, il eût été plus pertinent, comme je disais à l'instant, de revenir sur les fondements et de dire, mais attendez, depuis 2015, nous avons réalisé un ensemble d'avancées substantielles et qui nous permettent de dire aujourd'hui aux citoyens européens que la situation est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant.
En réalité, la situation est aujourd'hui maîtrisée. Yves Pascaux et puis ensuite Nelly Wiesmann. Il y a un sommet dans quelques jours maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un accord sur une politique de gestion commune des migrants et des réfugiés, Yves Pascaux?
Alors, un accord sur une politique commune, non, parce que avoir un accord sur une politique commune, ça suppute que l'on soit en capacité d'avoir une vision à long terme, en réalité, de savoir ce à quoi ressemblerait la mobilité humaine dans les 10, 15, 20 prochaines années, de préparer des scénarios et d'adapter des solutions. C'est ça une politique commune, en réalité, c'est définir un cadre dans lequel on évolue, des objectifs et des mesures à mettre en œuvre. Donc ça, on peut oublier, parce que nous sommes dans un moment de tension et peut-être entre guillemets de chaos, et il va falloir trouver des solutions de très court terme. Maintenant, je mets au défi quiconque sera en capacité aujourd'hui de me donner l'issue de la réunion de jeudi et de vendredi. Je pense que les discussions vont être excessivement tendues, vont risquer d'être très très longues, et moi, à titre personnel, je ne sais pas ce sur quoi les dirigeants européens sont aujourd'hui capables de s'entendre, si ce n'est sur le renforcement du contrôle de la frontière extérieure de l'espace Schengen et l'éloignement des personnes en situation irrégulière. Sur tout le reste, eh bien, c'est le grand point d'interrogation.
Nelly Wiesmann, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, mais il y a quand même une certitude, c'est qu'aujourd'hui, les partenaires de l'Union européenne sont à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut, en tout cas c'est ce qu'ils considèrent, qu'il faut ne plus accueillir de migrants économiques et que désormais, au fond, seuls les réfugiés vont pouvoir éventuellement trouver asile en Europe. Après, évidemment, moult vérifications, mais en tout cas pour ce qui est de la migration économique, c'est terminé. On ferme. Tout le monde est d'accord là-dessus, en réalité.
Oui, mais après, il faut quand même savoir comment on fait exactement au moment où quelqu'un se présente à nos frontières. C'est-à-dire que tout est très facile sur le papier. C'est bien clair que Dublin existe, on sait exactement comment appliquer, etc. Mais qu'est-ce que vous faites exactement au moment où quelqu'un se présente à votre frontière? Il y a des lois qui font que vous renvoyez pas directement la personne, mais cette personne a le droit de faire une demande. Et cette procédure peut être extrêmement longue. C'est-à-dire même quelqu'un qui arrive en Italie actuellement, qui est enregistré là-bas, qui arrive à la frontière allemande parce que voilà, il s'est dit qu'il aimerait bien être en Allemagne parce que voilà, il a entendu parler de l'Allemagne et que ça se passe plutôt bien, que les gens sont plutôt bien accueillis. Vous renvoyez pas actuellement. Cette personne va entrer, et même si l'Allemagne dit actuellement que c'est plus l'Italie qui serait responsable de cette personne parce que cette personne a été enregistrée sur le territoire italien, actuellement, il faut faire une demande auprès d'Italie pour que l'Italie prenne cette personne. Ça peut durer. Et si on dépasse les 6 mois, c'est justement l'Allemagne qui devient responsable. Bien évidemment, on est d'accord qu'il ne faut pas accueillir actuellement le migrant économique. C'est aussi pour que, justement, on peut mieux accueillir les personnes qui ont tout à fait le droit de venir, qui viennent d'une région où il y a une crise où il y a une guerre civile. Mais il faut trouver la bonne solution. Et je pense que, justement, ce que monsieur Pascaux a dit, on est assez d'accord sur la dimension externe, qu'il faut plus des accords avec le pays à l'extérieur de l'Union européenne. Il faut plus de Frontex. Mais après, il y a toute cette dimension interne. Donc, qu'est-ce qu'on fait au moment où quelqu'un se présente à nos frontières? Et c'est là, justement, où ça va être extrêmement compliqué. Et comme les diplomates disent, ça va durer toute la nuit, voire plus.
La Commission européenne, on le sait, sa position, c'est de dire qu'il faut mettre en place des mesures de répartition de demandeurs d'asile. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, Yves Pascaux, ces fameuses clés de répartition qu'on avait trouvées en septembre 2015, ce mécanisme de relocalisation. Je crois que de mémoire, on s'était mis d'accord sur 120 000 réfugiés, sauf qu'il n'a pas été respecté. Alors, pourquoi est-ce que là, ça pourrait fonctionner ?
Ça pourrait fonctionner assez paradoxalement parce que le dysfonctionnement initial du premier mécanisme nous a permis de tirer les leçons des erreurs. En fait, le mécanisme de relocalisation qui concernait grosso modo 100 000 personnes n'a pas fonctionné parce que il a mis beaucoup plus de temps que prévu à être établi. À établir les hotspots. À quel endroit, avec quel personnel, comment est-ce qu'on l'équipe, est-ce que les agents des États membres sont disponibles. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que de l'idée d'établir des hotspots dont on pensait peut-être naïvement à la Commission européenne qu'on pouvait les établir du jour au lendemain, et à leur établissement réel, il s'est passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et pendant ce temps-là, les personnes se sont relocalisées d'elles-mêmes. Mais une fois qu'on a établi les hotspots et que les personnes ont été dirigées vers ces hotspots, identifiées et enregistrées, le processus a plus ou moins fonctionné. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a appris du fonctionnement de ces hotspots, on sait désormais comment ça se passe et qu'on sera très certainement en meilleure position demain de pouvoir faire fonctionner un type de centre identique, en prenant garde quand même de les faire fonctionner de manière peut-être un petit peu mieux que ceux qui ont fonctionné en Grèce et en Italie, dans certains cas où la situation des personnes était plus proche de l'indignité que de la dignité humaine.
Comment vous faites, Yves Pascaux, pour convaincre les réfractaires ? Je mets de côté pour le moment l'Allemagne, on va s'y intéresser très particulièrement. Je mets même de côté l'Italie, mais si on regarde les pays d'Europe centrale, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, le fameux groupe dit de Visegrad, clairement pour eux, il n'est pas question d'accueillir ni des migrants, ni même des réfugiés. Alors comment est-ce qu'on fait pour les contraindre ?
Eh bien, je pense
qu'ils n'ont même pas participé à la réunion ce week-end.
Oui. Eh bien, on les contraindra pas, et je pense que c'était peut-être ça qu'il fallait lire entre les lignes dans les déclarations de la chancelière allemande, c'est que on va dépasser la solution à 28 et qu'on fera une forme de coopération renforcée entre un groupe réduit d'États, 9, 10, 12, 15 peut-être, qui vont accepter de participer à ce processus de relocalisation. On sait pertinemment qu'un groupe d'États, à 4 au moins, peut-être beaucoup plus large demain, vont s'opposer à cette solution. Donc si on veut dépasser cette situation-là, il va falloir leur dire, d'accord, on a compris que vous ne voulez pas, peut-être que vous le paierez au niveau des perspectives financières, ça c'est une autre question, mais si vous ne voulez pas, on ne va pas vous forcer et nous on partira dans un groupe réduit, d'où cette idée en fait de partir par petits groupes d'États pour se répartir les demandeurs d'asile.
Nelly Wiesmann, est-ce que vous pensez qu'on se dirige aussi vers ça, c'est-à-dire une coopération un peu réduite? Alors je ne sais pas par quoi, par des accords bilatéraux, multilatéraux, avec un groupe de 5, 10, peut-être 15 États membres. C'est ça vers quoi on se dirige?
Je pense que c'est à peu près la voie qu'Angela Merkel va emprunter. Elle a déjà dit qu'elle cherche maintenant des accords avec des accords bilatérales, donc notamment avec l'Italie, qui va pour le moment pas du tout fonctionner, parce que ce qu'elle voulait faire, c'était justement de dire on vous renvoie les personnes qui ont été déjà enregistrées chez vous et par contre on va vous aider financièrement. L'Italie a déjà catégoriquement refusé cette solution, mais elle essaye quand même de négocier avec la Bulgarie, la Grèce, donc plus des accords bilatéraux. Je pense ce que M. Pascaux a dit justement après punir entre guillemets les États Visegrad au moment où il n'accepte pas justement de recevoir des personnes, ça va être une piste justement.
Emmanuel Macron en a parlé ce week-end. Il a dit qu'il fallait peut-être penser à sanctionner les réfractaires, mais on se demande quand même à quoi pourraient ressembler ces sanctions.
Ça, c'est à discuter. Juste pour vous dire quelque chose, je pense que c'est assez intéressant qu'on regarde ce qui se passe en Allemagne. L'État fédéral ne pose pas la question aux Länder s'il souhaite ou s'il ne souhaite pas recevoir des réfugiés. C'est justement une clé C'est comme un quota, les clés de Königstein, qui prend en compte le nombre d'habitants d'une lande, d'une région, et la recette des impôts. Donc, est-ce que c'est un lande plutôt riche, pauvre, comme par exemple l'Allemagne de l'Est? Et c'est réparti selon ces clés. C'est-à-dire que c'est l'État fédéral qui gère les demandes d'asile au niveau de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, la BAMF. Et après, c'est réparti selon cette clé. Et ça fonctionne plutôt bien, parce que justement, c'est pas les hommes politiques, c'est pas les ministres-présidents, après, c'est pas le maire qui doivent s'expliquer par rapport à leurs électeurs, c'est justement l'État fédéral qui répartit, ce qui fait aujourd'hui la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Bavière, ce sont justement les deux Länder qui reçoivent le plus de réfugiés. Mais voilà, c'est décidé à l'échelle fédérale.
Yves Pasquo, sur l'hypothèse de ces sanctions, à quoi ça pourrait ressembler ?
Ah ben écoutez, il faut réécouter le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen et lire les documents de la Commission européenne qui ont été publiés quelques jours après pour voir que grosso modo, il va y avoir une réduction du fonds de cohésion, c'est-à-dire le fonds qui vient au soutien des régions les plus pauvres de l'Union européenne et en particulier celui qui abonde de manière assez importante les régions d'Europe centrale et orientale, et que une partie de ce fonds-là va être transférée à un fonds qui va venir aider les collectivités locales qui porte leur soutien et qui accueille des réfugiés.
Donc, voilà, ça représente quoi comme manque à gagner pour ces pays ?
Alors, en termes, selon les trébuchants, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça se compte en plusieurs millions d'euros, ça incontestablement. Donc, la sanction, entre guillemets, si on l'imagine, elle se situera aussi au niveau du porte-monnaie.
Et ça peut marcher ?
Ah, en tout état de cause.
Vous pensez que Viktor Orban va dire, ah bah du coup, puisqu'on risque d'être sanctionné, on va accueillir des réfugiés ?
Non, mais je pense que il va. Ce qui peut fonctionner en revanche, peut-être que la position de Viktor Orban, elle, va être intransigeante et il ne bougera pas d'un iota de sa position. Mais en revanche, il n'est pas certain que la perspective de voir s'éloigner une manne financière assez importante du point de vue polonais, tchèque ou slovaque, soit bien vu. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être aussi un incitant pour ces États membres-là de leur dire, écoutez, voilà, la situation est celle-là. Et probablement aussi que ça va réveiller certaines villes, ce qui existe déjà dans ces pays d'Europe centrale et orientale. Il y a plusieurs villes qui ont manifesté leur intérêt pour accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile.
Donc, et qui pourraient recevoir les fonds à la place des États ?
Eh oui.
Pourquoi pas ?
Ouais. Pourquoi pas ?
Ouais, donc une compétition entre les régions, les villes et puis les États centraux.
Voilà.
On va se pencher tout de suite sur l'Allemagne. Donc on l'a vu, ce ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, donc membre de la CSU, les conservateurs bavarois, qui est en train de mettre la pression sur la chancelière allemande.
Si d'ici fin juin, le gouvernement est capable de renvoyer les migrants à la frontière par le biais de discussions européennes ou d'accords bilatéraux, alors dans ce cas, nous serons satisfaits. Et nous souhaitons donc bonne chance à la chancelière. Mais nous restons sur nos positions. Si aucun accord n'est trouvé, nous devons être en mesure de pouvoir refouler immédiatement les migrants à la frontière.
La CDU soutient donc les mesures proposées par le ministre fédéral de l'Intérieur, Horst Seehofer, pour avoir un cadre très général en ce qui concerne la migration. Nous savons également que nous devons défendre à la fois des intérêts allemands et des intérêts européens, et c'est pour cela que nous ne prendrons pas de décision unilatérale qui puisse se faire au détriment de nos partenaires.
Voilà, donc Horst Seehofer qui pose un ultimatum à la chancelière. Soit elle parvient à trouver un accord au Conseil européen, soit il lancera une politique de refoulement de tout migrant arrivant d'un autre pays d'Europe. Est-ce que, Nelly Wiesmann, il existe aujourd'hui un risque d'éclatement de la coalition gouvernementale allemande ?
Il existe. Il existe même si l'Union, donc CDU et CSU, aimerait bien éviter ce scénario à tout prix, parce qu'il y aura à tout moment deux perdants en fait. La réaction actuelle de Monsieur Seehofer par rapport à Angela Merkel est quand même assez étonnant, même si c'est assez attendu. Je vous dis ça parce que
moi justement j'allais vous dire tout l'inverse. Je comprends pas pourquoi maintenant précisément à un moment où Yves Pasquo nous le disait tout à l'heure, en réalité il n'y a plus beaucoup de migrants et de réfugiés qui arrivent en Allemagne. Pourquoi est-ce que maintenant il provoque ce clash ?
Alors c'est très simple à expliquer. Juste pour vous dire, dès le début, donc dès 2015, au tout début de la crise des réfugiés en Allemagne, M. Seehofer, qui à l'époque n'est pas encore ministre de l'Intérieur, mais ministre-président de la Bavière, donc là où les réfugiés arrivent, s'attaque à la politique d'Angela Merkel. Il menace même de porter plainte contre elle pour non-conformité à la Constitution, à la loi fédérale, parce qu'elle a ouvert les frontières. Et pendant les négociations de la coalition, justement, il dit, si on fixe pas un seuil, une limite d'accueil des réfugiés, qu'il aimerait bien fixer à 200 000 personnes, je vais pas entrer en coalition avec vous. Donc, il y a ce conflit qu'il a depuis 2015. Pourquoi, là, juste avant le sommet, il se lance dans ce débat? C'est justement parce que ça reste quand même quelqu'un qui est très ancré en Bavière, et on a des élections en Bavière en octobre.
15 octobre.
15 octobre, exactement.
Donc, c'est la perspective des élections. Parce que la barre des 200 000, a priori, elle ne devrait pas être atteinte pour 2018.
On est dans le cadre du contrat de coalition. On voit dans les chiffres, et justement, Mme Merkel communique assez bien autour, elle dit très bien, non, on ne va pas atteindre ces 200 000 personnes, ça va être beaucoup moins, et on arrive à peu près à gérer la crise actuellement. Mais je pense vraiment que c'est cet élément qui fait que, l'élément de l'élection en Bavière qui fait que M. Seehofer actuellement, il repose cette question et qu'il se lance sur un tout petit élément, parce que pour tout vous dire, M. Seehofer, au moment où il entre, au moment où il devient ministre de l'Intérieur, il dit qu'il va présenter un schéma, un master plan, un schéma directif, justement, pour mieux gérer la crise des réfugiés en Allemagne. C'est 63 points. On ne les connaît pas encore. Personne n'a lu ce papier. Mais il y a un point sur lequel, apparemment, il n'a pas pu se mettre d'accord avec Angela Merkel. Et ça, c'est ces fameux point sur la
sur
question de Dublin.
Exactement,
sur le refoulement, sur Dublin. Donc justement, le fait que lui, il dit « je vais maintenant renvoyer les personnes ». C'est un seul point, personne n'a vu le papier, mais voilà, il veut présenter ses papiers. Finalement, la conférence de presse est annulée, c'est vraiment dans une situation assez chaotique. Et il y a après deux conférences de presse qui se passent au même moment. CDU, CSU. Donc, on voit très bien que justement, il y a un vrai crise, il y a un vrai conflit. Mais, comme je vous ai dit, ce sera vraiment perdant-perdant. Parce que qu'est-ce qui peut se passer au moment où ça éclate? Différents scénarios. Soit Angela Merkel, elle va dire, bon, ok, je vais laisser faire M. Seehofer, justement pour éviter qu'il y ait une vraie crise en Allemagne. À ce moment-là, voilà, elle ne peut pas continuer. Parce que c'est elle qui décide toujours, c'est la chancelière. Soit elle va licencier M. Seehofer, justement, parce qu'elle va dire, c'est toujours moi la chancelière, vous êtes juste le ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, la CSU ne va pas rester au sein de l'Union, ce qui fait qu'on aura un gouvernement minoritaire. Et à ce moment-là, il faut voir. Donc soit, par hasard, les Verts vont être d'accord pour entrer en coalition, ce qui est très peu probable, parce qu'on a vu lors des négociations qu'il n'y a pas de point commun. Soit elle va poser la question de confiance au Bundestag, et à ce moment-là, il y aura des élections, donc une vraie crise en Allemagne.
Yves Pascoe, que vous inspire cette possible crise politique qui est en train de poindre déjà en Allemagne? Elle nous le dit, Nelly Wiesmann, personne n'a intérêt à ce qu'elle éclate, et en même temps, toutes les conditions sont réunies pour qu'elle éclate.
Ben, ça ne m'inspire rien de bon, évidemment, comme à tout le monde, sauf peut-être aux partisans de l'AfD, Alternative für Deutschland, qui eux voient la perspective d'élections en Bavière, mais peut-être aussi d'élections générales d'un meilleur œil. Donc ça aussi, ça participe de ce mouvement de transformation du paysage politique où l'instabilité des partis classiques et des coalitions profite à d'autres types de formations.
Ça serait quand même une très très mauvaise nouvelle pour la question de la relance européenne qui serait quand même bien compromise. Emmanuel Macron, on le sait, a cette ambition de relancer l'Europe. Sans le partenaire allemand, sans Angela Merkel, ça va être très compliqué, Yves Pascoe.
On avait poussé un ouf de soulagement quand, justement, la chancelière avait réussi à former un gouvernement de coalition en se disant, voilà, ça y est, le gouvernement allemand est prêt à fonctionner, donc on peut relancer la machine et le couple franco-allemand à la veille d'élections européennes. Sauf qu'on voit que ce gouvernement-là, est dans une position très, très difficile. Effectivement, c'est pas très, très bon pour la relance européenne. européenne. Et puis, il faut être relativement lucide hein, sur deux points en particulier. Un point qui concerne les politiques migratoires, donc qui vont continuer à rester à l'agenda. Gardons à l'esprit qu'à partir du 1er juillet, c'est l'Autriche qui assure la présidence tournante de l'Union européenne. Et il y a de très fortes chances que l'agenda de l'Autriche sur la question migratoire soit particulièrement prioritaire et particulièrement difficile. Ça, c'est le premier élément. Et donc, les six prochains mois, de juillet à décembre 2018, vont être dans le cadre de la présidence autrichienne. Ensuite, il faut passer au niveau général, on va rentrer dans une campagne électorale pour l'élection du Parlement européen. Et là, ça va être aussi une campagne dans laquelle la question migratoire va être déterminante et prédominante. Et il y a de très fortes chances que si on continue sur ce changement de paysage politique au sein des États membres avec des formations hostiles à la question migratoire et certaines même aussi hostiles au projet européen, eh bien on se retrouve avec une nouvelle assemblée parlementaire beaucoup plus à droite que celle que l'on a aujourd'hui. Et donc ça, c'est aussi, hein, au-delà de la question strictement allemande, c'est aussi un élément de préoccupation assez important.
Mais vous avez le sentiment, et je poserai cette question aussi à Nelly Wiesmann, mais vous avez le sentiment que l'Autriche pourrait faire de la question migratoire l'enjeu essentiel des prochaines élections européennes, parce que je rappelle quand même que c'est pas du tout ce que nous dit l'Eurobaromètre. Hein. Là, en gros, on nous explique que les thèmes principaux pour la campagne les prochaines élections européennes, les principaux points, c'est 1, la lutte contre le terrorisme, 2, la question de l'emploi des jeunes, et seulement 3, la question de l'immigration qui vient donc en troisième position, et puis ensuite on a l'économie et la croissance. Donc les sujets de préoccupation des Européens, c'est pas d'abord et avant tout, en tout cas pour le moment, la question migratoire. Vous pensez que l'Autriche pourrait transformer les choses et faire passer cette question en priorité ?
Bah, disons-le de manière relativement simple, les formations politiques de droite extrême et surtout d'extrême droite ne voient pas, leur horizon n'est pas l'horizon européen. Et en réalité, on a bien vu hein, après le Brexit que toutes les formations politiques d'extrême droite ont sorti de leur programme la question de la sortie de la zone euro et la question de la sortie de l'Union européenne. Et donc toutes ces formations politiques se recentrent sur une thématique qui leur est commune, la question migratoire. Et compte tenu de l'inflammabilité de cette question-là, on voit bien qu'il est tout à fait possible que ces formations politiques qui sont au gouvernement en Autriche utilise cette corde-là pour faire monter la question migratoire comme une priorité. Et j'ajoute à cela, peut-être de manière très très cynique, mais c'est quelque chose qu'on doit garder, à mon avis, dans le logiciel de lecture des prochains mois. Est-ce qu'il est de l'intérêt de l'Autriche qu'on arrive à une solution sur les questions migratoires ? Moi, je ne suis pas certain. Si on est avec des formations politiques qui sont hostiles à l'Union européenne ou hostiles au projet européen, eh bien, l'idée, c'est de dire, regardez, l'Union européenne est incapable de régler la situation migratoire, qui est une priorité des citoyens. Eh bien, si l'Union européenne ne peut pas le faire, alors nous, on récupère nos compétences. Et c'est ça aussi qu'il y a derrière.
Nelly Wiesmann, vous voyez, vous aussi, cette instrumentalisation peut-être à venir de l'Autriche qui va effectivement prendre, à partir du 1er juillet, la présidence de l'UE.
Monsieur Kunz l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, que justement, la question migratoire, ça va être le grand sujet pour sa présidence. Avec des propositions, il y a des papiers qui sont déjà sortis où on voit très bien dans quelle direction il veut pousser cette discussion. Donc justement, il dit les personnes qui arrivent, c'est plus des migrants économiques, c'est des jeunes hommes qui arrivent chez nous qui vont commettre des crimes. Donc il pousse justement, ça se voit très bien dans tout ce qu'il a dit et tous les papiers qu'on trouve actuellement, qu'il va pousser cette discussion dans cette direction-là.
On est avec vous, Nelly Wiesmann et Yves Pascaud, autour de cette question. Les démocraties à l'épreuve des migrations aujourd'hui, face à la crise migratoire, l'Union européenne en sursis.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va retrouver Cecilia Wikström, l'eurodéputée chargée de la réforme du règlement de Dublin. Changer ce système de demande d'asile, voilà une réforme particulièrement difficile à mener et pourtant très attendue par les pays comme la Grèce ou l'Italie. En 2016, la Commission européenne proposait de modifier ce système en redistribuant les demandeurs d'asile entre les différents États membres lorsque leur nombre atteignait un certain seuil. Une réponse qui a été beaucoup critiquée, en particulier par le Parlement européen. On retrouve Cecilia Wikström qui a proposé, justement, défendu ce projet au Parlement européen. Elle revient sur sa proposition, sur les raisons pour lesquelles ce mécanisme doit fonctionner en situation de crise comme en situation normale. Elle est au micro de Samuel Bernard.
Pour moi, si la répartition des demandeurs d'asile est tout le temps effectuée sur une base régulière, alors cela devient quelque chose de normal et d'acceptable. Lorsque le flux d'arrivants sera faible, le système fonctionnera toujours et distribuera un nombre peu élevé de personnes aux pays membres. Le point clé est évidemment que chaque membre doit y prendre part pour pouvoir soulager ce qu'on appelle le fardeau des pays en première ligne. Et il faut que la distribution puisse être équitable entre les pays membres, c'est très important. Autrement, il est très difficile d'anticiper. En période de crise, lorsque le flux de personnes est plus important, il est alors trop tard pour initier quoi que ce soit. Mettre ce type de politique en place prend du temps, et beaucoup de temps s'écoule toujours avant que le système ne soit prêt et opérationnel. C'est pour cette raison que le Parlement défend un système de répartition des demandeurs d'asile qui doit être automatique et fonctionnel, aussi bien quand le flux est faible que lorsqu'il est important.
Alors une relocalisation, certes, mais encore faudra-t-il s'en donner les moyens. En 2015, l'Union européenne était parvenue à un accord concernant la relocalisation des demandeurs d'asile. 120 000 demandeurs devaient quitter l'Italie et la Grèce pour rejoindre d'autres pays de l'Union européenne. Finalement, ce sont seulement quelques trentaines de milliers d'entre eux qui ont pu jouir de cette relocalisation. Ce qui soulève la question du budget et de la volonté politique, Cécilia Wikström. N'avez-vous pas peur, si votre texte passe, qu'il n'ait pas les moyens de ses ambitions ?
L'exemple que vous soulevez est un très bon exemple pour comprendre pourquoi nous devons avoir un système permanent. Car la relocalisation des réfugiés venus d'Italie et de Grèce était une mesure d'urgence. Elle a été appliquée dans un contexte où il n'y avait pas de système d'asile fonctionnel. En d'autres termes, il n'y avait pas de procédure. Pas de personnel. Des centres en Italie et en Grèce ont dû être créés à partir de rien. Les hotspots n'existaient pas quand cette législation a été appliquée. Il faut donc un système permanent et automatique. Dans notre système, cela fonctionnera peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il se passe. Mais dans la situation actuelle, nous avons dû commencer à partir de rien. Il a fallu embaucher du personnel, monter les camps, acheter des lits et des matelas, créer des systèmes informatiques, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien.
Bought beds and mattresses, put systems up, there were no computers, there was nothing.
Donc tout cela a pris beaucoup de temps avant de fonctionner. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que quand la crise est là, il est alors trop tard pour commencer à être opérationnel. Il faut être opérationnel quand le flux est normal. Alors vous êtes prêt pour gérer tous les défis que vous rencontrerez.
Au début du mois, vous déclariez que le sommet prévu fin juin était le sommet de la dernière chance pour réformer le système de Dublin. Ce sera effectivement l'un des sujets essentiels à l'ordre du jour, qui sera donc discuté par les chefs d'État et de gouvernement. Alors, dernière chance, c'est-à-dire, et surtout, que va-t-il se passer si ce sommet qui aura lieu dans trois jours ne débouche sur aucun accord ?
Well, what will happen is that we are going to meet the European elections and citizens in 2019, a year, not even a year from now, completely empty-handed.
Ce qu'il va se passer, c'est que les élections européennes de 2019 vont venir très vite. Elles sont dans à peine un an, et alors nous arriverons devant les électeurs les mains vides. Les citoyens nous ont bien montré dans les sondages qu'ils souhaitent que l'Europe puisse légiférer dans les domaines de la sécurité, de l'antiterrorisme, du changement climatique et les politiques migratoires. Or, nous légiférons sur tous ces sujets, sauf sur l'immigration. Ce qui signifie qu'en 2019, si nous n'avons toujours pas trouvé un système, ce sera un terrible aveu d'échec pour l'Europe. Les citoyens se fichent de savoir si c'est le Parlement ou le Conseil qui bloque le processus. Le Parlement a adopté des propositions sous mon leadership et a voté le texte à une majorité des deux tiers, y compris des députés des pays membres du groupe de Visegrad. Oui, eux aussi ont participé. Nous avons 67 membres dans le Parlement européen de ces pays qui sont contre tout partage équitable des responsabilités. Mais nous avons poussé au vote et cela a été adopté. Ce faisant, mon mandat pour négocier est très fort. Mais aujourd'hui, le Conseil est incapable de mettre d'accord 28 ministres sur un texte commun, ce qui est un échec considérable. Ce que je dis, c'est que s'ils sont incapables de se mettre d'accord sur un texte commun dimanche, puis les jours qui vont venir lors des sommets, alors il n'y aura plus de temps pour conduire des négociations que j'attends depuis presque un an.
Tout le monde s'accorde à dire que votre texte fournit de nombreuses réponses aux problèmes rencontrés par l'Union européenne sur les questions migratoires. Et pourtant, il est très improbable que les États membres s'accordent sur ce texte, à cause de la position des pays du groupe de Visegrad notamment. Mais cependant, un certain nombre de points particuliers font l'objet de discussions, notamment la définition des pays sûrs, ces pays dont les ressortissants verront leur demande d'asile automatiquement rejetée. Pouvez-vous me dire, et ce sera ma dernière question, ce que le Parlement est prêt à négocier, ou plutôt à concéder aux États membres pour que cette réforme puisse être votée ?
Everything can be negotiated. I am absolutely open to negotiate, but it takes two to tango, and I don't have a dancing partner. The Council simply do not have a text that they can unite on.
Tout peut être négocié. Je suis totalement ouverte à la négociation. Mais je n'ai pas de partenaire. Le Conseil considère qu'il n'a pas de texte sur lequel s'appuyer. Donc je suis absolument prête à négocier. Mais les citoyens se fichent que ce soit le Parlement ou le Conseil qui échoue. Les citoyens nous jugeront seulement sur le fait que l'Europe est capable ou non de proposer une solution. Et c'est mon souci principal. Maintenant, j'ai rencontré hier le ministre grec. J'ai rencontré cette semaine les 5 ambassadeurs de Grèce, d'Italie, de Chypre, de Malte et d'Espagne qui appellent de leur vœu une solidarité européenne. Et ils m'ont dit unanimement que mon texte était une excellente base de négociation.
Now, it takes now some courage and leadership from European heads of states.
Maintenant, il faut que les chefs d'État européens aient du courage et du leadership pour provoquer un vote. En réalité, vous n'avez pas soulevé cette question, mais selon les traités, le Conseil devrait décider à la majorité qualifiée, mais jusqu'à maintenant, le Conseil fait comme si l'unanimité était le seul mode de décision. Mais pour moi, ce n'est plus une option désormais. Nous avons les pays de Visegrad et ils n'accepteront jamais d'accepter une solution fondée sur le principe de partage des responsabilités.
So why don't they just push for a vote and vote them down? This is what we did in Parliament, and according to the treaties.
Donc autant aller au vote. C'est ce que nous avons fait au Parlement et selon les traités, le Parlement décide à la majorité simple. Nous l'avons fait. Mon mandat compte les deux tiers des membres, il est très fort. Le Conseil pourrait faire exactement la même chose. Et je ne comprends pas, oui, le Conseil sera moins sympathique, moins cosy, et le leadership demande du courage, et c'est ce dont manque l'Europe. Nous avons été confrontés à la crise financière, à la crise migratoire, et aujourd'hui nous sommes face à un manque de volonté politique. Il n'y a aucune vision exprimée au sein du Conseil, sauf le contrôle aux frontières et la responsabilité partagée sur le retour au pays, etc. Ce n'est pas suffisant.
Voilà, on entendait à l'instant Cecilia Wikström, l'eurodéputée chargée de la réforme du règlement de Dublin, qui est au micro de Samuel Bernard. Nele Wiesmann, est-ce que vous pensez que le Parlement peut peser dans cette crise politique qu'on décrit depuis presque une heure maintenant ?
Au moins, ils vont essayer, bien évidemment. Je pense, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a un élément qui est extrêmement important à souligner. Peu importe qu'on arrive à négocier, si c'est un Dublin plus, des quotas solidaires, il faut aussi en même temps harmoniser les systèmes d'asile dans toute l'Europe. On n'a pas encore parlé de ça. Je pense que c'est un élément clé parce que c'est à la fois pour, le pays qui va accueillir, mais aussi pour le demandeur d'asile. Il faut qu'il sache qu'il a les mêmes conditions d'accueil dans tout le pays de l'Union européenne. Au moment où c'est pas le cas, justement, il y aura certains pays qui vont plus accueillir que d'autres. Et puis aussi, il faut harmoniser le taux de protection entre les différents pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple précis, quelqu'un qui vient de l'Afghanistan, il a plus de chances de faire passer sa demande d'asile en France qu'en Allemagne. Ce qui fait actuellement, d'ailleurs, juste petit exemple, vous avez des Afghans qui parlent très bien l'allemand, parce qu'ils ont passé plusieurs années déjà en Allemagne, ils ont participé à des cours de langue, mais qui viennent justement en France, or qu'ils sont dublinés, justement parce qu'ils savent très bien que le taux de protection ici en France est plus élevé.
On reviendra sur cette question de l'harmonisation de l'asile européen cette semaine, mais Yves Pascourt, est-ce que vous avez le sentiment là aussi que le Parlement peut jouer sur cette crise politique interne à l'Europe ? Yves Pascourt ?
Malheureusement, je ne suis pas tout à fait certain, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est tombé dans ce qu'on peut appeler le piège du Conseil européen. Le piège du Conseil européen, c'est que à partir de 2015, les chefs d'État et de gouvernement ont envoyé un message aux citoyens en disant « on est conscient qu'il y a une crise migratoire et c'est nous, chefs d'État et de gouvernement, qui allons prendre la mesure et prendre les décisions sur cette question-là ». Et donc progressivement, la grande majorité des questions liées à l'asile et l'immigration sont montées au Conseil européen. Or, la règle de décision au Conseil européen, c'est le consensus, autrement dit l'unanimité. Et quand les questions deviennent excessivement politiques, comme c'est le cas sur Dublin, la question de la répartition des demandeurs d'asile est le nœud gordien de toute cette histoire-là. Or, les États du Visegrad, et il n'en faut qu'un seul, sont fondamentalement opposés à une redistribution obligatoire des demandeurs d'asile. Ce qui veut dire que, une fois que le piège du Conseil européen s'est refermé, il est impossible que les chefs d'État et de gouvernement prennent une orientation sur cette question-là. Alors on pourrait, évidemment, comme le dit Cécilia Malmström, dépasser le Conseil européen et appliquer strictement les traités parce que, effectivement, la modification du règlement de Dublin doit être réalisée sur la base de la majorité qualifiée. C'est tout à fait envisageable, sauf que si on fait ça, on va se retrouver exactement dans la même situation que ce qu'on a eu avec la relocalisation. Oui. Les États qui se sont opposés n'appliqueront pas la règle, tout simplement.
Nelle Wiesmann, et ce sera vraiment le mot de la fin, on arrive au terme de cette émission.
Je pense qu'il y a un autre élément à prendre en considération quand on parle du Parlement. Aujourd'hui, dans certains groupes, vous avez quand même des partis qui n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. Je parle notamment du PPE, du Parti Populaire Européen. Aujourd'hui, vous avez la CDU qui justement œuvre dans le sens d'Angela Merkel pour trouver justement des compromis qui se retrouvent avec le parti de Viktor Orban. Donc ça va être extrêmement compliqué là de trouver déjà au sein d'un groupe parlementaire un compromis. Ho comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Olè, tengo il ritmo prendendo.
Merci beaucoup, Nelle Wiesmann, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'IFRI. Un grand merci également à Yves Pascoe qui était avec nous en duplex de Nantes. Je remercie d'ailleurs également les techniciens qui ont permis de faire ce duplex. Yves Pascoe, vous êtes chercheur à l'Université de Nantes, mais aussi président de l'association European Migration Law, qui a d'ailleurs un site internet sur ces questions migratoires. Merci à vous. On reprendra toutes ces questions migratoires demain à 11h dans Culture Monde, mais pour l'heure 11h53, c'est l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez du Moyen-Orient aujourd'hui. Durant ces dernières années, c'est vrai qu'on a eu tendance à voir à l'œuvre dans les conflits du Moyen-Orient des lignes de fracture religieuse, confessionnelle. C'est plus le cas aujourd'hui, plus beaucoup. Pourquoi ?
Surveiller de près les signes du retrait de l'islam au Moyen-Orient, écrivait le correspondant de l'hebdomadaire The Economist dans le numéro spécial Le Monde en 2018. À la faveur de la débâcle de l'État islamique et des révélations sur les atrocités commises par ces séides, la région va connaître, disait-il, une vague de cosmopolitisme émancipateur. C'était Nicolas Pelham. La jeune génération en particulier a compris que, contrairement au fameux slogan des islamistes, non, décidément, l'islam n'est pas la solution. Les deux symboles de l'islam, la barbe et le voile, reculent dans la région, écrivait-il. Le sexe avant le mariage et le divorce se répandent au grand scandale des vieux. Les régimes autoritaires eux-mêmes, en particulier ceux d'Égypte et des Émirats, ont compris que c'est la réforme et la modernisation qui peut les aider à consolider leur pouvoir et non la pactisation avec des institutions qui sont leurs rivales sur le plan politique. « Rollover religion », écrivait-il. The Economist, bible des milieux libéraux, a toujours manifesté une forte tendance à l'optimisme. On y a souvent décrété « inéluctable, l'extension mondiale de la démocratie avec celle du commerce international, universelle, l'aspiration à l'émancipation individuelle. Mais cette fois, il semble bien que le journal des élites anglo-saxonnes ait tapé juste. On en trouve en tout cas la confirmation dans un fait assez spectaculaire, relevé récemment par l'historien et ancien ministre des Affaires étrangères israélien Shlomo Ben-Ami. La pertinence du facteur religieux permet de moins en moins de rendre compte de la géopolitique du Moyen-Orient. Il y a encore 4 ou 5 ans, les crises dramatiques que traversait la région pouvaient trouver une explication dans le conflit millénaire qui oppose 2 traditions opposées de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Ce clivage crucial s'incarnait en effet dans la rivalité entre 2 puissances régionales, l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Iran, puissance révisionniste, expansionniste, misait sur le potentiel révolutionnaire du chiisme pour étendre son influence depuis l'Irak, à majorité chiite, jusqu'à la Syrie où les alaouites sont minoritaires mais au pouvoir à Damas, en passant par le Hezbollah libanais.
Donc tout ça ne tient plus, Brice, disiez-vous. Quels sont les signes de ce changement, de cette moindre pertinence de la religion ?
Eh bien l'Iran qui n'appartient pas au monde arabe a soutenu les printemps arabes parce qu'elle est une puissance musulmane et qu'elle ne doutait pas que des élections libres amèneraient au pouvoir des partis islamistes. Qu'ils émanent des frères musulmans sunnites comme en Égypte ne comptait pas beaucoup aux yeux de Téhéran. Les alliances régionales, observe Shlomo Ben-Ami, obéissent de moins en moins à la logique d'autrefois sunnite contre chiite. À preuve, la Turquie d'Erdogan, puissance sunnite s'il en est, qui penche vers l'Iran. On le constate en Syrie, où le fait que le Hamas, qui gouverne Gaza, parti islamiste radical d'obédience sunnite, est financé par l'Iran. Même penchant pour Téhéran à Oman, sultanat dominé par des sunnites et des ibadistes. Pour une raison qui n'a vraiment rien à voir avec la religion, c'est avec l'Iran qu'Oman partage le contrôle du détroit d'Ormuz par lequel transitent les tankers exportant le pétrole. Oman est régulièrement accusé par les Saoudiens de livrer des armes aux rebelles houthistes du Yémen, eux aussi protégés de l'Iran. Le Qatar aussi maintient de bonnes relations avec l'Iran. Les 2 États sont obligés de s'entendre. Ils partagent d'immenses réserves de gaz. Significatif, la Turquie, alliée de l'Iran, dispose sur place, à Al-Rayyan, d'une base militaire significative. La Turquie protège les frères musulmans sunnites dont s'inspire la théocratie d'Erdogan. L'Arabie saoudite, puissance sunnite s'il en est, les combat parce qu'elle voit en la confrérie une menace existentielle. En Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, sunnite, les traque et les emprisonne. Et c'est loin d'être le seul motif de tension entre le Caire et Ankara. Ces 2 puissances sunnites divergent à peu près sur tout, en particulier sur la cause palestinienne, dont Ankara se veut désormais le premier défenseur, tandis que l'Égypte, très hostile au Hamas, impose depuis 2007 un sévère blocus à Gaza. Mais la preuve la plus spectaculaire de la déliaison entre logique sectaire et géopolitique, c'est l'Irak qui est en train de l'administrer. Le religieux chiite Moqtada al-Sadr vient d'y remporter les élections législatives avec son mouvement En Marche, Sikh, et il essaie de former un gouvernement avec des laïcs et des communistes. Aux yeux de Washington, il apparaît, je cite Ben-Ami, comme le meilleur rempart contre l'influence de l'Iran dans son pays. S'appuyant sur le nationalisme irakien et le sentiment d'appartenance à la nation arabe, il a noué des liens très étroits avec l'Arabie saoudite où, comme on sait, le jeune Mohammed ben Salman mène une modernisation tambour battant. Alors, vu d'Israël, avec Shlomo Ben-Ami, cette évolution est jugée de manière très positive. Elle a permis un rapprochement inédit avec l'Arabie saoudite et permet la poursuite de la coopération avec l'Égypte. Il est plus facile de discuter entre adversaires de questions politiques comme la sécurité que de dogmes religieux, conclut Shlomo Ben-Ami. Les chances de stabilité au Moyen-Orient sont bien meilleures aujourd'hui.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.